Critique par le père Philippe à Saint-Judas, le 30 mai 90.
Il y a une petite question qui nous permet de reprendre ce qui était dit. Si l'appréhension, premier moment de notre vie intellectuelle, premier élément, j'aime mieux dire élément que moment, premier élément de notre vie intellectuelle, saisit la quiétude de la réalité expérimentée. Comment comprendre le primo cadit in intellectu de saint Thomas, en réalité d'Avicenne? L'être n'est-il pas saisi dans toute sa force dans le jugement d'existence? Pouvez-vous préciser? Oui, primo cadit ens. Et saint Thomas traduit ens, ce qui est. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez qu'il y a deux traductions de ens. N'oubliez jamais. C'est dans le monde d'aujourd'hui. Id, quod, est. Saint Thomas. C'est-à-dire ce traduction moderne étant sous l'influence heideggerienne, c'est net. Il y a une tendance d'interpréter saint Thomas dans la lumière de Heidegger. Je me souviens quelqu'un, je ne dis pas le nom, me disait au fond, il faut aujourd'hui prendre des étudiants avec Heidegger et les conduire à saint Thomas. Si vous êtes enfermé dans Heidegger, vous ne retrouverez jamais saint Thomas. Vous sortir de Heidegger pour reprendre saint Thomas. Et ça, c'est très... Comme il faut sortir de Kant pour découvrir saint Thomas. Comme il faut sortir de Descartes pour sortir... Comme il faut sortir de Hegel. Saint Thomas n'est pas au terme de Hegel, n'est pas au terme de Kant, n'est pas au terme de Descartes, n'est pas au terme d'Heidegger. C'est ça quoi. Séparer. Je ne peux pas faire un poème sur l'être par la signification. très ancien. Et le moderne conclut comme s'il n'y avait pas de problème. C'est bien évident que la parole est avant la pensée, puisque le corps est avant l'âme. Donc c'est bien évident. Il faut parler pour penser. Alors vous voyez l'immense avantage du professeur qui est le seul à penser, puisque les autres pensent. Et qui détermine. passer ici. Primo Caditi est allé tous ens. La première chose qui tombe dans l'intelligence, c'est ce qui est jugement d'existence. C'est le premier. Mais Saint-Thomas ne précise pas. S'agit-il de l'appréhension ou du jugement? Il y a un petit passage dans le commentaire des métaphysiques où ens est ce qui tombe en premier lieu dans l'appréhension. Saint-Thomas le dit. C'est pas tout à fait juste. Ens est saisi dans le jugement. Primo cadit intellectus. Intellectus. Est-ce que c'est l'appréhension ou est-ce que c'est le jugement? Hein? C'est pas dit. L'intelligence n'est parfaite que dans le jugement. Donc, la première chose que l'intelligence saisit, c'est ce qui est. Jugement d'existence. Mais pour saisir le jugement d'existence, il faut d'abord l'appréhension. Et l'appréhension saisit quoi? Quelque vraiment, qu'est-ce qu'il y a avant le jugement? Puisque le jugement m'apparaît comme complexe. Ceci n'est pas tout jugement. Je suis. Ceci est. C'est complexe. Qu'est-ce qui est antérieur à cette complexité? Dans une réduction critique. Oui. Puisque dans la réalité descriptive, vitale, le jugement apparaît simple. Ceci est un jugement très simple. Rien n'est tout de suite simple. Je ne peux pas aller au-delà de ceci est. C'est évident. Je contacte avec la réalité. Ceci est. Dans l'interrogation, Aristote dit, la première interrogation, c'est l'interrogation, c'est est-ce que ça existe, ceci est. Donc c'est premier. Mais dans la réduction critique, où je veux saisir les choses élémentaires, je ne peux pas m'arrêter à la diade, à la dualité. Ceci est implique une dualité. Alors c'est ça qu'il faut bien saisir. Je prends exprès le jugement le plus simple. Ceci est. Id quod est. Ens. Ceci est. Id quod est. Qu'est-ce qui ceci, le nom et le verbe. Qu'est-ce qui est antérieur au nom et au verbe? C'est nécessairement quelque chose de commun. Ça ne peut pas être autrement. Qu'est-ce qui est commun au nom et au verbe? C'est que le nom et le verbe possèdent une signification. conscience exprime la vitalité de mon esprit. J'assimile. Qu'est-ce qui est assimilable? La signification profonde des choses. Et la déchance, en connaissant, exprime cette signification. Elle l'a dit. En la connaissant. Il y a là quelque chose de tout à fait premier dans ma vie intellectuelle. Saisir la quiétude des réalités, ce qui est la signification propre de cette réalité. Et en saisissant cette signification propre de la réalité, l'intelligence peut alors regarder cette réalité. Et dire si elle existe ou si elle n'existe pas. Et elle peut juger. Et le jugement, c'est toujours dire le jugement dans ce qu'il a de tout à fait premier. Si cette réalité existe, si cette signification existe ou n'existe pas. Voyez comment, à partir du jugement, on essaie d'extraire, dans une analyse résolutive, on essaie d'extraire ce qu'il y a de tout à fait premier et élémentaire. Et on l'appelle appréhension. L'intelligence saisit. C'est le premier contact vital de l'intelligence avec la réalité existante. Saisit son TN, ce qu'est cette chose, sa signification. Bon, ça, j'espère que vous voyez, en comprenant bien que ce premier moment de la vie de l'intelligence, il n'existe jamais à l'état pur. Il existe toujours à l'intérieur d'un jugement. Parce que n'existe que ce qui est parfait. Saisir tout ce qui est presque tout ce qui est dans cette première assimilation. Ce n'est pas une assimilation qui change la réalité. Quand je connais la réalité, je ne la modifie pas. Je suis modifié par elle, mais je ne la modifie pas. La réalité a quelque chose de royal par rapport à la connaissance. Ce n'est pas parce que je connais quelque chose que je le change, sauf si on a le mauvais œil. Parce qu'avoir le mauvais œil, c'est ça. Je te connais, donc je te change. Je te connais, donc je te possède. Si tu racontes cette histoire, il faut de temps en temps se rappeler ça. C'était en Suisse. Je rentrais, il y avait des militaires. Les militaires, ils disent franchement ce qu'ils pensent quand ils sont sous l'habit militaire. Ils peuvent se permettre des tas de choses. Alors, un curé qui touche le bois. Donc, ça ne sert à rien. Il est devenu blême, ce pauvre type. Oui. Vous lui montrez que c'est de la bêtise. Il faut dégonfler les baudruches. La connaissance saisit la réalité sans la modifier. Si la connaissance modifiait la réalité, il n'y aurait pas de connaissance spéculative. Oui. Et l'appréhension permet la connaissance spéculative. Parce que je connais l'arrêté sans la modifier, c'est l'arrêté qui me modifie. C'est pour ça que je dis assimilation intentionnelle. Je deviens la réalité connue par l'assimilation, pas dans l'appréhension, en l'assimilant. Je deviens la réalité connue. Quand je connais quelque chose, ce quelque chose est en moi. Il est connu en moi, je le porte en moi, et je suis déterminé par ce quelque chose. Je connais sa quiddité, sa détermination fondamentale et première, et je l'assimile. Alors comment expliquer cette assimilation que je constate, que j'ai déterré, vous voyez? J'ai exprimé ce premier moment de ma vie intellectuelle, c'est l'appréhension, qui est un mode d'assimilation, mais d'assimilation intentionnelle, parce que la réalité n'est pas changée. Je suis modifié, mais la réalité n'est pas modifiée. Donc je dis, une assimilation intentionnelle, je porte en moi cette réalité dans sa détermination profonde. Je la porte en moi, mais la réalité elle-même n'est pas changée, c'est moi qui suis changé. Comment expliquer cette assimilation que j'ai découvert, que j'ai dévoilé, que j'ai décrypté à travers le jugement? La réalité me détermine. La réalité a donc quelque chose en elle qui est en acte et qui, en moi, n'est pas en acte. Je reconnais par le fait même que la réalité existe avant que je la connaisse et que c'est elle qui détermine mon intelligence. Mais comment peut-elle déterminer mon intelligence? Parce que justement, elle existe et en existant, elle a sa propre réalité, sa propre détermination. Je la connais par les sens, je la touche, je la vois, et je forme au-dedans de moi une certaine image de cette réalité. Génétiquement, c'est comme ça que ça se fait. Et cette image reste quelque chose de sensible. C'est la représentation de la chose que je porte en moi. L'icône, l'image, c'est l'icône en grec. Pas l'oublier, le mot icône est un mot grec, c'est pas un mot français, et ça veut dire image, ça veut dire représentation. Alors évidemment, dans l'ordre sacré, dans l'ordre chrétien, l'icône prendra toute une signification, d'une présence. Mais l'icône, l'image que j'ai au-dedans de moi, que j'ai formée au-dedans de moi, est sensible. Comment expliquer ce passage du sensible à quelque chose de spirituel? Pour expliquer ce passage du sensible à quelque chose de spirituel, je pose l'intellect actif. Je pose une lumière spirituelle capable d'illuminer mon image du dedans. Pour extraire de cette image sa détermination quantitative. Et c'est là où je pose ce premier phénomène tout à fait particulier de l'abstraction. Comme c'est intéressant et important, ça. L'image, comme toute image, est singulière. Je peux la représenter. L'image, je peux la représenter. Je peux me représenter l'image. Donc, la singularité de l'image et la représentation de l'image. N'importe quelle image. Pensez, je sais pas, l'image que vous aimez, une fleur, une rose, une cerise, une asperge. L'image. N'importe quoi. Vous savez, toujours. Dès que je dis, voyez, dès que j'ai asperge, vous représentez quelque chose. Ou vous la représentez dans la terre. Quand on a cherché la première asperge dans la terre, tiens, ça pousse dans la terre comme ça, c'est curieux. Avec une petite pousse que vous l'avez prise. Et puis vous voyez, l'asperge, comme c'est en train de cuire. Et puis l'asperge que vous mangez. Il y a une image, représentation singulière. C'est telle asperge. Parce qu'il y a des espèces différentes d'asperges. Donc, telle asperge. Vous représentez ça. Et quand vous dites asperge, vous représentez l'asperge sous un mode universel. Vous passez de la représentation à la signification. Et la signification a un mode universel. Alors que la représentation a un mode singulier. Le passage du singulier à l'universel. Le passage de la représentation à la signification. Oui, il faut comprendre que singulier est universel. Mais donné en premier lieu dans la représentation et dans la signification. C'est très très important ça, au point de vue critique. Donc par rapport à la philosophie hegélienne, c'est très important, ce passage du singulier à l'universel. Et le singulier seul, je peux le représenter. Et la signification à un mode universel. Toute signification a un mode universel. Toute signification est premièrement universelle. Elle naît avec ce mode universel. Il y a le passage de l'image à ce qu'on appellera la forme intelligible qui vient déterminer l'intelligence. Quand je pense Asperger, je pense blanc. Quand vous pensez asperge, pensez à une sorte de légume. Asperge, je ne sais pas, c'est pas du navet. Asperge, je ne sais pas, une carotte. C'est un légume. Alors, il y a une détermination, une signification propre. Mon intelligence pense asperge. En même temps que je pense asperge, je me représente asperge. Avec un peu d'imagination. Et vous représentez l'asperge dans différents lieux. C'est peut-être, si vous n'avez jamais vu une asperge dans la terre, poussée dans la terre, vous ne voyez que l'asperge sur le plan. Et vous pensez, comme les macaronis, que ça pousse dans la terre. C'est la même chose. Parce que la représentation macaroni, asperge, eh bien, si vous voulez regarder comment ça existe, et non pas comment c'est cuit, parce que les deux c'est cuit, vous pouvez mettre la même sauce. Mais c'est très très différent, au point de vue de la réalité. L'une est une plante vivante, l'autre est une plante artificielle. Un légume artificiel, c'est très différent. Donc, vous passez de l'image à la forme intelligible. Comment se fait ce passage? Ça, je le constate dans la critique. Toutes les représentations sont singulières et toute signification est universelle. Je passe du domaine de l'imagination au domaine de ma pensée. Vous ne pouvez jamais représenter une signification. Jamais. Vous cherchez à la représenter. Mais vous ne pouvez jamais penser l'image. Il y a un domaine, on passe d'un domaine à l'autre. Du domaine singulier au domaine universel. Comment se fait ce passage? C'est là où je dis, il y a nécessairement dans mon intelligence qui veut connaître, il y a une force, dynamis, une puissance capable d'illuminer l'image et d'extraire de l'image que je me représente le tien. Vous voyez, l'image implique le tout et le représenté. Je me fais une image de l'asperge, à peu près adéquate avec la réalité. Si mon image est bien faite, je reconnaîtrai tout de suite dans la réalité. Je dis, ah oui, c'est une asperge. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais représenté l'image dira, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Jamais vu ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, tu en as mangé. Mais vous avez pu très bien le manger sans vous représenter ce que c'était que l'asperge. Ça arrive. Et dire, ah, c'est bon l'asperge. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en sais rien, mais c'est bon. D'où ça vient? Oh, j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Je mange. Alors, il y a en moi quelque chose qui permet de passer de la représentation à la signification, du singulier à l'universel. Je constate ça. Et cette puissance, c'est ce qu'on va appeler l'intellect agent. Vous voyez comme c'est intéressant, l'intellect agent. Je le pose pour expliquer le passage du singulier à l'universel. Et c'est là où mon intelligence commence à naître. Le premier moment de ma vie intellectuelle, c'est d'atteindre quelque chose que j'assimile, qui est au-dedans de moi, qui est une forme intentionnelle, qui a une signification et un mode universel. C'est le premier moment de ma vie intellectuelle. Là, j'assiste à la naissance de ma vie intellectuelle. Mon intelligence naît à partir de là. Mais pour naître, il faut quelque chose qui me permet d'illuminer de l'intérieur l'image pour une détermination, une signification, une détermination qui vient spécifier mon intelligence. Et j'assiste intentionnelle, quand elle est assimilée, c'est ce qu'on appelle le concept. Et le concept a une signification. Et ce concept ayant une signification, je pourrais l'exprimer, le dire. Et j'aurai un terme qui a une signification, asperge. Vous voyez, c'est pas commode d'expliquer au plan critique ce passage du singulier que je me représente à la signification universelle. Expliquer le passage de l'asperge que vous représentez à l'asperge que vous pensez. Ce légume a sa signification. Une signification propre et universelle. En disant asperge, je pense à toutes les asperges du monde entier. Qu'elles viennent d'Amérique, qu'elles viennent du Texas, qu'elles viennent de France, qu'elles viennent d'Angleterre.